En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Lors de la séance du 22 janvier 2007 devant l'Académie des sciences morales et politiques, André Vacheron, professeur émérite de cardiologie, président de l'Académie nationale de médecine en 2005 et correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1998, faisait une communication consacrée au thème « La prévention des maladies cardiovasculaires, un enjeu majeur de santé publique ». Retrouvons-le de ce pas en séance.
Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le chancelier de l'Ordre de la Libération, Monsieur le chancelier honoraire, Mesdames et Messieurs les académiciens, Monseigneur le Nonce, Madame, Mesdames et Messieurs. Prendre la parole ici devant vous est pour moi un honneur. J'en mesure le privilège. Monsieur le Président, je dois sans doute votre invitation à l'estime et à l'amitié qui ont toujours marqué nos relations en dépit de la diversité de nos disciplines. Croyez bien que j'y suis sensible et je vous en exprime ma vive gratitude. La prévention des maladies cardiovasculaires, j'ai intitulé mon titre « Un enjeu majeur de santé publique ». J'ajouterai également un enjeu économique pour la santé. En France, comme dans la plupart des pays industrialisés, les maladies cardiovasculaires sont en effet la première cause de mortalité tous âges confondus, avec 32% des décès devant le cancer, responsable de 29% des décès chez les hommes, de 23% des décès chez les femmes. Elles entraînent 170 000 décès par an et leur prévalence devrait augmenter avec le vieillissement de la population. D'après les études de l'IRDES, l'Institut de recherche et documentation en économie de santé, les maladies cardiovasculaires représentent le poste le plus important, 12,6% de la consommation de soins et de biens médicaux, soit en 2005 13,6 milliards d'euros sur un total de près de 108 milliards d'euros de soins hors recherche et hors prévention. En 2005, dans notre pays, les dépenses publiques de santé ont représenté 10,6% du PIB. En Allemagne, en comparaison, elles représentent 10,9% du PIB. En Suisse, 11,6%. Et aux États-Unis, 16%. Elles vont certainement continuer à augmenter. La maladie coronaire, avec sa complication redoutable, qu'est l'infarctus du myocarde, l'hypertension artérielle sévère, l'insuffisance cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux invalidants, sont parmi les motifs les plus fréquents d'entrée en affection de longue durée et représentent à peu près le quart des personnes prises en charge au titre d'une des 30 maladies remboursé à 100%. L'infarctus myocardique est un problème majeur de santé publique en raison de sa fréquence, 120 000 cas par an, en raison de ses conséquences sur la morbimortalité avec des arythmies ventriculaires qui exposent à la mort subite et le risque d'insuffisance cardiaque dans les formes sévères qui détruisent une partie de la paroi ventriculaire gauche. Les accidents vasculaires cérébraux constituent la première cause de handicap acquis chez l'adulte, la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer, la troisième cause de décès et leur coût socio-économique est considérable, plus de 2 milliards d'euros. Chaque année en France, plus de 120 000 personnes d'un âge moyen de 70 ans sont victimes d'accidents vasculaires cérébraux. Parmi elles, très schématiquement, 30 000 meurent dans les jours qui suivent l'accident, 30 000 récupèrent, mais 60 000 gardent un handicap de gravité variable. Bien que l'incidence des accidents vasculaires cérébraux ait diminué au cours des 50 dernières années, leur prévalence a augmenté en raison de la diminution de la mortalité à la phase aiguë et de l'allongement de la durée de vie, avec pour corollaire un doublement des patients relevant des structures de soins de longue durée. L'athérosclérose, qui a été décrite par le français Marchand en 1904, est la principale responsable des maladies cardiovasculaires et en particulier de la maladie coronaire. C'est une maladie multifactorielle, sous la dépendance d'un certain nombre de facteurs, certains non corrigeables, comme l'hérédité, le sexe masculin, l'âge adulte. D'autres corrigeables,
l'hypercholestérolémie, le tabagisme, l'hypertension artérielle, l'obésité, le diabète, la sédentarité. La connaissance de ces facteurs est fondamentale pour la prévention. Mais si le rôle délétère du tabac et de l'alimentation trop riche en graisse est perçu par la population, il n'en est pas de même de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie et du diabète qui restent souvent méconnus durant des années. Ces facteurs de risque sont retrouvés dans tous les pays du monde, comme on peut le constater dans le registre international REACH, incluant 70 000 patients souffrant d'athérothrombose coronaire, cérébrale ou périphérique, recrutés dans 44 pays sur les 5 continents, un tiers en Amérique du Nord, un tiers en Europe de l'Ouest, un tiers dans le reste du monde, dont 5 000 au Japon, avec un suivi prévu de 4 ans. Fréquemment associés, les facteurs de risque potentialisent leurs effets délétères sur l'endothélium vasculaire, c'est-à-dire la tunique interne de l'artère, comme l'ont établi des études épidémiologiques maintenant historiques, telles l'étude américaine de Framingham, initiée par William Cannell en 1948, sur 5209 habitants des deux sexes, âgés de 30 à 60 ans, de cette petite ville du Massachusetts, située à une cinquantaine de kilomètres de Boston, avec un suivi de près de 60 ans maintenant, ce qui représente 3 générations dans les mêmes familles. Les facteurs de risque interviennent précocement dès l'adolescence. Des études autopsiques américaines, réalisées chez les victimes des guerres de Corée et du Vietnam, ont montré la présence de lésions coronaires chez de jeunes soldats de 20 à 25 ans. Ces lésions seront à l'origine des complications aiguës de la maladie coronaire à partir de la 5e ou de la 6e décennie. Elles progressent silencieusement durant des années avant d'aboutir à l'infarctus et parfois à la mort subite, tous deux révélateurs de la maladie coronaire chez la moitié environ des patients coronariens. Il est intéressant d'observer que ce ne sont pas les sténoses coronaires, les rétrécissements les plus sévères, qui sont à l'origine des accidents aigus, mais la survenue d'une thrombose sur des plaques athéroscléreuses fissurées jusque-là quiescentes. Vous pouvez retenir qu'on vieillit avec son athérosclérose et qu'on meurt de thrombose. Si les maladies cardiovasculaires ne préviennent pas toujours, elles ne frappent pas non plus au hasard. Les coronariens, mais aussi les victimes d'accidents vasculaires cérébrales, ont des facteurs de risque identifiables et des mesures de prévention primaires avant les accidents pourraient éviter ou retarder ces derniers. Après les accidents, les études d'intervention ont démontré le bénéfice de la prévention secondaire pour empêcher la récidive et la mort subite. Tous les facteurs de risque doivent être pris en charge avec des objectifs encore plus exigeants qu'en prévention primaire et des bénéfices démontrés par de nombreux essais thérapeutiques désignés par des acronymes portant sur plusieurs milliers de malades suivis pendant plusieurs années. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la médecine fondée sur les preuves. Les stratégies de prévention font à l'heure actuelle l'objet de recommandations consensuelles, tant américaines qu'européennes, avec des adaptations à notre population qui ont été définies par l'ANAES, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, devenue la Haute Autorité de Santé, et par l'AFSAPS, qui est l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Mon exposé comportera 3 parties. La correction des facteurs de risque, les résultats de la prévention et l'amélioration de la prévention cardiovasculaire dans notre pays. Je commencerai par la correction des facteurs de risque. Et tout d'abord, par l'hypercholestérolémie. Stérol le plus abondant de l'organisme. Le cholestérol est un composant essentiel des membranes cellulaires et joue un rôle important dans la synthèse des hormones stéroïdes, notamment des hormones sexuelles et de la vitamine D, et nous avons besoin de cholestérol. Ce cholestérol provient pour une faible part de l'alimentation, c'est très important, la part provenant de l'alimentation n'est que de 30%. Et pour une part plus importante, 70%, d'une synthèse hépatique à partir de l'acétate. Insoluble dans l'eau, le cholestérol circule dans le plasma sanguin sous forme de lipoprotéines solubles qui sont ses véhicules de transport. Les LDL lipoprotéines, low density lipoprotéines des anglo-saxons, transporte environ 70% du cholestérol circulant, apporte ce cholestérol aux cellules et se fixe sur des récepteurs spécifiques qui ont été découverts en 1985 par les Américains Brown et Goldstein, qui ont reçu le prix Nobel pour cette découverte. Une déficience génétique de ces récepteurs ou une diminution de leur activité par une alimentation trop riche en graisse entraîne l'augmentation du LDL cholestérol et son dépôt sur la paroi des artères, où il va participer à la constitution des plaques d'athérosclérose, de véritables taupinières, des monticules de graisse qui réduisent la lumière artérielle, d'où la qualification de mauvais cholestérol donnée au LDL cholestérol. Les HDL lipoproteins, l'autre véhicule de transport, qu'on appelle encore les high density lipoproteins, transportent environ 20% du cholestérol circulant. Elles captent le cholestérol des cellules et le ramènent au foie, où il est incorporé à la bile et excrété dans le tube digestif. Les études épidémiologiques ont montré que plus le taux de HDL cholestérol est élevé, plus le risque d'athérosclérose est faible, d'où sa qualification de bon cholestérol. La consommation de corps gras végétaux, notamment d'huile d'olive riche en polyphénol antioxydant, le poisson, l'activité physique régulière, augmente le HDL cholestérol. Le tabac, certaines pilules contraceptives, la sédentarité le diminue. Vous pouvez retenir qu'une augmentation de 10 mg par litre de HDL cholestérol s'accompagne d'une diminution de 2 à 3% du risque cardiovasculaire. Le rôle du cholestérol dans la genèse de l'athérosclérose a été établi par l'expérimentation animale, en nourrissant des singes avec des matières grasses, avec du beurre, en étudiant certaines races animales comme le lapin watanabe, qui est dépourvu de récepteurs au LDL lipoprotéines et qui fait des infarctus comme l'homme. Il a été établi également par la génétique. Il y a des hypercholestérolémies familiales héréditaires avec des infarctus qui surviennent chez l'adolescent avant l'âge de 20 ans. Il est établi par l'épidémiologie. L'étude de Framingham aux États-Unis, étude que j'évoquais au début de cet exposé. L'étude prospective parisienne en France, qui a porté sur 7800 employés de la ville de Paris, suivie pendant 23 ans. Ces études ont montré que la mortalité coronarienne croît de façon exponentielle avec l'augmentation de la cholestérolémie. À partir de 2,64 g par litre, le risque est multiplié par 4 par rapport au sujet ayant une cholestérolémie à 1,80 g par litre. 5 à 10% des Français ont plus de 3 g par litre de cholestérol. 15 à 16% ont plus de 2,50 g par litre de cholestérol. Idéalement, le cholestérol total doit être inférieur à 2 g par litre et le LDL cholestérol, le mauvais, doit être inférieur à 1 g par litre. En moyenne, dans notre pays, le LDL cholestérol est de 1,53 g par litre chez les hommes de 35 à 64 ans. Comment peut-on réduire l'hypercholestérolémie? Le régime alimentaire pauvre en graisses saturées, riche en fruits, en légumes, en poissons, est important. Mais il ne peut habituellement diminuer la cholestérolémie que de 10% au maximum. Et l'un de mes camarades, Bernard Jacotto, a étudié les taux de cholestérolémie et de maladies cardiovasculaires dans des monastères où le régime alimentaire était particulièrement frugal, et il a fait les constatations d'hypercholestérolémie élevée en dépit de nourriture vraiment très végétale. Il faut donc faire appel aux médicaments. Aux médicaments. Eh bien, nous disposons aujourd'hui d'une famille d'inhibiteurs puissants de la synthèse hépatique du cholestérol qu'on appelle les statines. Et ces statines, maintenant, sont universellement utilisées dans tous les pays du monde pour réduire l'hypercholestérolémie. Les études randomisées, statines versus placebo, de prévention secondaire après les accidents. Je vais vous en citer quelques-unes. Elles sont habituellement désignées par des acronymes, comme je vous le disais tout à l'heure. L'étude 4S c'est la Scandinavian Symptomatic Cervical Study avec le ZOCOR qui a porté sur près de 5000 patients suivis pendant 5 ans. C'est une étude américaine et canadienne. L'étude lipide et l'étude CARE, qui sont des lipides américaines, canadiennes et australiennes, qui ont porté également sur des séries importantes de 5 à 10 000 patients, toutes ces études ont montré une réduction de la mortalité totale de l'ordre de 20 à 30%, de la mortalité coronarienne de 20 à 42%, des revascularisations myocardiques par pontage ou angioplastie chez les patients les plus sévères, moins 37, moins 20% dans lipides, chez les coronariens traités par une statine, quand on les comparait aux patients qui recevaient le placebo. Le bénéfice existe quel que soit l'âge, et c'est très important parce que, durant des décennies, on baissait les bras chez les sujets âgés et on s'aperçoit qu'il ne faut pas baisser les bras. Le bénéfice existe quel que soit l'âge, et notamment jusqu'à 75 ans à l'inclusion dans les études CARE et lipides. Il existe quel que soit le sexe, quels que soient les facteurs de risque associés, quels que soient les traitements associés, le niveau initial de la cholestérolémie, dans tous les cas, on observe un énorme bénéfice. Chez les coronariens traités par une statine, l'incidence des accidents vasculaires cérébraux est également diminuée, c'est-à-dire un autre pôle de la maladie artérielle va bénéficier du traitement par la statine. Après un accident vasculaire cérébral ou sa forme mineure, un accident ischémique transitoire, trouble du langage, trouble de la vision, trouble de la motricité d'un membre qui devient lourd, qui obéit mal et qui régresse le plus souvent en moins d'une heure, mais qui annonce fréquemment un infarctus cérébral dont il multiplie le risque par 14. Une récente étude, l'étude Sparkle, rapporté au dernier congrès américain de Chicago de novembre dernier auquel je participais, portant sur près de 5000 patients, a démontré, au terme d'un suivi moyen de 5 ans, l'intérêt d'une statine à forte dose, je vous donnerai son nom, c'est le Taor, pour diminuer le risque de nouvel accident vasculaire cérébral, moins 16%, mais aussi celui d'accident coronarien majeur, moins 35%, chez des malades qui avaient fait, certes, un accident vasculaire cérébral, mais qui n'avait pas à l'inclusion de maladie coronaire. Autrement dit, ces malades cérébrovasculaires avaient une maladie coronaire encore silencieuse, encore latente, et les malades qui ont eu la statine ont eu non seulement une réduction de la récidive vasculaire cérébrale, mais n'ont pas eu les mêmes accidents coronariens que ceux qui recevaient le placebo. L'athérosclérose est une maladie ubiquitaire, atteignant tous les territoires artériels et les atteignant simultanément. Dans Sparkle, le bénéfice a été obtenu en abaissant le LDL cholestérol, le mauvais, d'une valeur moyenne de 1,33 g par litre à l'inclusion à 0,56 g par litre, soit une réduction de plus de 50% par le médicament. Chez des patients qui recevaient en outre le traitement optimal anti-agrégant plaquettaire ou anti-hypertenseur. La cible actuellement recherchée par les cardiologues et par les neurologues vasculaires est un taux de LDL cholestérol, le mauvais cholestérol, inférieur à 1 g par litre. Mais une récente étude américaine dont j'ai entendu les résultats à Chicago, l'étude TNT, Treating to New Targets, a démontré l'intérêt d'un traitement encore plus intensif, abaissant la concentration du LDL cholestérol à moins de 0,77 g par litre. Le délai relativement bref dans lequel apparaît le bénéfice permet de penser que le mécanisme d'action de ces médicaments n'est pas uniquement le ralentissement de la progression de l'athérosclérose, le ralentissement de ces taupinières qui s'accumulent dans les artères. L'amélioration de la fonction de l'endothélium artériel, la tunique interne des artères, la stabilisation des plaques d'athérosclérose qui sont revêtues, recouvertes par une sorte de chape. Vous imaginez une boule de graisse recouverte par une plaque de ciment. Eh bien, la plaque de ciment tend à se fissurer et les statines empêchent cette fissuration. Car la fissuration appelle le caillot, la thrombose, qui occlut définitivement l'artère. On vit avec l'athérosclérose, on meurt de thrombose. Le traitement médicamenteux doit évidemment être associée à une alimentation hypocholestérolémiante. L'alimentation est fort utile. Elle doit être riche en poissons. Et il y a des études qui montrent l'intérêt de la diète riche en poissons, l'étude d'Art en particulier. 200 à 400 grammes de poissons deux fois par semaine diminuent dans cette étude qui a été publiée dans le Lancet en 89, diminue de 29% la mortalité globale et de 11% la mortalité coronarienne en 2 ans chez les coronariens qui mangent 2 à 400 grammes de poissons deux fois par jour. Deux fois par semaine, pardonnez-moi. Ah, pour en manger deux fois par jour, ça sera meilleur. Autre alimentation intéressante, l'alimentation de type méditerranéen. Et là, il y a une étude française, il n'y a pas que des études américaines ou anglaises, il y a une étude française qui est l'étude lyonnaise, qui a été pilotée par mon ami Serge Renaud, qui a montré qu'avec une alimentation quotidienne riche en légumes, en fruits, en huile d'olive, on pouvait obtenir une diminution de 67% de la mortalité globale et des infarctus non mortels au cours d'un suivi de 46 mois par rapport au sujet qui continuait à manger de façon banale des frites et d'une viande un peu trop grasse. Ça, c'était la prévention secondaire, la prévention après les accidents. Qu'en est-il de la prévention primaire, avant les accidents? Eh bien, il y a une grande étude qui est l'étude VOSCOPS, qui est une étude écossaise, la West of Scotland Coronary Prevention Study, qui a été réalisée avec l'Elysor versus placebo, c'est toujours le même schéma, chez près de 7000 hommes de 45 à 64 ans, sans antécédent d'infarctus myocardique, suivi pendant 5 ans. L'étude VOSCOPS a démontré une diminution de plus de 30% de l'incidence des événements coronariens aigus et des décès cardiovasculaires chez des sujets hypercholestérolémiques, mais qui n'avaient pas eu d'infarctus, dont la cholestérolémie moyenne initiale à 2,70 g par litre a diminué de 20% sous le traitement par statine. Voilà pour ce premier facteur, l'un des plus importants. Deuxième facteur, le tabac. Vous savez que le tabagisme est responsable de plus de 60 000 morts chaque année en France. C'est l'un des principaux facteurs d'athérosclérose et de thrombose, qui revient toujours, le caillot qui bouche l'artère. C'est aussi l'une des principales causes de cancer, et mon ami Lucien Israël nous en parlera savamment dans quelques semaines. Comme l'a démontré l'étude de Framingham, toujours elle, le risque de maladie coronaire augmente avec le nombre quotidien de cigarettes. 10 cigarettes par jour le multiplie par 2. 20 cigarettes par jour le multiplie par 3. Un tabagisme important est quasi constant chez les sujets de moins de 45 ans atteints d'infarctus. Et quand je recevais des hommes jeunes de moins de 45 ans à Necker, la question appelait toujours la même réponse. Vous êtes un grand fumeur? Oui, monsieur. Combien? 1 à 2 paquets. Il avait moins de 45 ans et souvent un cholestérol normal. Comment le tabac avait-il pu déclencher l'infarctus? Par le biais de la thrombose. Le risque coronaire est multiplié par 10 chez la femme tabagique qui prend une pilule de contraception. Le risque d'accident vasculaire cérébral est multiplié par 22 par rapport aux femmes non fumeuses et sans pilule. Et j'ai vu, au cours de mon exercice, j'ai vu des femmes de 35, 40 ans hémiplégiques parce qu'elles étaient à la fois fumeuses et sous pilule. L'arrêt du tabac, après un infarctus myocardique, diminue jusqu'à 50% la mortalité dans les années qui suivent l'accident. Il diminue le risque d'occlusion des pontages. Il est très bénéfique chez les artéritiques et dans la prévention du risque d'accident vasculaire cérébral. Peu de démarches thérapeutiques donnent un bénéfice aussi rapide, aussi important que l'arrêt du tabac, mais son obtention est difficile. Une étude européenne, l'étude Eurospire, indique qu'un coronarien fumeur sur 2 seulement a arrêté de fumer 6 mois après son infarctus. Et nous observons la même chose chez des artéritiques, des membres inférieurs qui boitent, qui ne peuvent plus avancer et qui se font couper la jambe en tranches de saucisson au fil des années plutôt que d'arrêter leur tabagisme. Le sevrage du tabac peut aujourd'hui être aidé par les substituts nicotiniques, les patchs, par les gommes à mâcher, bien toléré par les patients coronariens. Il peut être aidé par les anxiolytiques, les antidépresseurs, les thérapeutiques comportementales, les consultations de tabacologie. Le tabagisme passif, car il y a, à côté du tabagisme actif, un tabagisme passif, auquel s'attaque aujourd'hui le gouvernement, est responsable de 4 à 5 000 morts par an. Et il faut bien savoir que chez un non-fumeur, nos études épidémiologiques ont démontré que quand le conjoint fumait, le risque de crise cardiaque pour le conjoint non-fumeur était augmenté de 25%. Troisième facteur, l'hypertension. L'hypertension atteint 10% environ de notre population adulte. Son incidence augmente avec l'âge dans les deux sexes. Et c'est une constatation que nous avons découverte assez récemment. L'hypertension atteint 70% des sujets de plus de 70 ans. C'est un grand facteur d'athérosclérose, souvent méconnu, et d'après les données de la Direction générale de la Santé, 48% des hommes, 30% des femmes hypertendues ignorent leur hypertension. Les Américains l'appellent le silent killer. Le risque d'accident vasculaire cérébral, d'insuffisance cardiaque, d'accident coronarien croît directement avec le niveau tensionnel. Et vous le savez certainement, l'hypertension est le facteur de risque majeur de l'accident vasculaire cérébral. Son traitement réduit ce risque cérébral de 40%. Plus la pression artérielle est basse, plus le risque d'accident vasculaire cérébral devient faible. Et chez les centenaires, les pressions artérielles sont habituellement de l'ordre de 12-13 maximum. Dans les recommandations, qu'elles soient américaines, européennes ou françaises bien évidemment, l'objectif, c'est l'obtention d'une pression artérielle inférieure à 14,9, plus basse encore, 13,8 chez les diabétiques, en privilégiant les mesures hygiéno-diététiques, le contrôle du poids, la prise de poids fait monter la tension artérielle, l'activité physique, les mesures diététiques, la réduction des apports en alcool, des apports en sel, en leur associant un traitement médicamenteux en cas de résultat insuffisant au bout de 3 mois ou d'emblée quand l'hypertension dépasse 16,10. L'obtention de la cible nécessite souvent le recours à une bi, voire à une trithérapie, et je ne vous détaillerai pas les médicaments que nous utilisons. Quatrième facteur de risque, l'obésité et le diabète. La surcharge pondérale est l'obésité qui intéresse aujourd'hui 12% de notre population. C'est-à-dire que nous avons plus de 6 millions d'obèses actuellement en France. Ce sont des facteurs de diabète, d'hypertension et de complications cardiovasculaires. Le diabète atteint actuellement 2 millions de Français et constitue la deuxième cause d'affection de longue durée. Il multiplie par 2 à 3 le risque d'accident coronaire, par 5 à 10 celui d'artérite des membres inférieurs. C'est aussi un facteur d'insuffisance rénale qui relève à terme de la dialyse périodique avec ses 3 séances hebdomadaires qui clouent le malade sur place en quelque sorte. Enjeu de santé publique, c'est également un enjeu économique considérable. Le coût de sa prise en charge par l'assurance maladie atteint 6,7 milliards d'euros. Une alimentation équilibrée, une consommation quotidienne d'alcool modérée, pas plus de 3 verres de vin standard chez l'homme, pas plus de 2 verres de vin standard chez la femme par jour. La réduction du surpoids avec un indice de masse corporelle inférieur à 25 kilos par mètre carré, le dépistage précoce et le contrôle rigoureux du diabète sont indispensables pour la prévention de ces complications qui vont frapper 1 patient sur 3. Dernier facteur que j'évoquerai, la sédentarité. En France, d'après une étude d'Opert en 2000, 41% des hommes, 50% des femmes ont une activité physique insuffisante. Dans l'enquête de Framingham, la mortalité coronaire est plus élevée chez les sédentaires que chez les sujets actifs physiquement. L'activité physique régulière favorise la diminution du poids, favorise la diminution de la tension artérielle, elle augmente le bon cholestérol HDL et la reprise d'une activité physique régulière est bénéfique chez le coronarien, dont elle réduit la mortalité de 20 à 25%. Les meilleures activités physiques sont celles effectuées avec régularité, et notamment la marche, à raison de 30 minutes par jour. La prise en compte de l'ensemble des facteurs de risque, ce que nous appelons le risque cardiovasculaire absolu, est indispensable pour la mise en route d'une stratégie efficace. Le deuxième volet de mon exposé est consacré aux résultats de la prévention. La prévention des maladies cardiovasculaires est étayée aujourd'hui par des données épidémiologiques et scientifiques solides. Elle a donné des résultats remarquables dans les pays qui ont engagé des politiques intensives de lutte contre ces maladies. J'en citerai quelques exemples. En Finlande, un pays qui avait le taux le plus important au monde de mortalité cardiovasculaire dans les années 60, un programme structuré de modification du mode de vie, de lutte contre le tabac, de dépistage et de traitement de l'hypertension, appuyé sur une volonté politique de prévention, a permis de diminuer d'environ 50% la mortalité coronaire chez les hommes et les femmes de 35 à 64 ans en l'espace de 20 ans seulement. En Écosse, la réduction des principaux facteurs de risque peut expliquer au moins 50% de la diminution de la mortalité observée entre 75 et 94. Il faut une vingtaine d'années pour obtenir un résultat. Aux États-Unis, les campagnes vigoureuses de prévention du NHLBI, le National Heart, Lung and Blood Institute, dirigé par l'un de nos compatriotes Claude L'Enfant, un ancien interne des hôpitaux de Paris, avec trois programmes nationaux, le National High Blood Pressure Programme, le Smoking Education Programme et le National Cholesterol Education Programme, relayés par des messages de prévention par l'American Heart Association et diffusés gratuitement, ce que nous n'avons pas en France, par les chaînes de télévision et par les journaux, ont fait chuter la mortalité coronarienne de plus de 40% et la mortalité par infarctus cérébral de plus de 50% en 30 ans. Au Royaume-Uni, une étude coordonnée par le docteur Belgin Younal du département de santé publique de Liverpool, portant sur 35,5 millions d'adultes de 24 à 85 ans, a montré une diminution de 54% de la mortalité cardiaque en Angleterre et aux Pays-de-Galles entre 1981 et 2000 à la suite de vigoureuses campagnes de prévention. En Angleterre et aux Pays-de-Galles, durant cette période de 20 ans, le nombre des fumeurs a diminué de 35%, le taux de cholestérol total dans la population a diminué de 4,2%, la tension artérielle moyenne de 7,7%. L'analyse globale des données colligées par l'équipe britannique montre que 45 000 vies environ ont été sauvées par la réduction des trois facteurs majeurs de risque artériel dans la population. Pour les auteurs de l'étude, la prévention primaire a eu un impact 4 fois plus grand que la prévention secondaire sur la réduction de la mortalité. Les législations interdisant de fumer dans les lieux publics sont de plus en plus répandues en Europe. Et les résultats d'un sondage d'opinion dans l'Union européenne, l'Eurobaromètre, publié il y a quelques mois, révèle que 80% des Européens y sont favorables. Je vais vous citer quelques études qui montrent les résultats positifs de cet arrêt du tabac. Tout d'abord, une étude italienne qui a été publiée en ligne dans l'European Heart Journal le 29 août 2006 par Francesco Barone Adedi. Cette étude indique que l'interdiction de fumer dans tous les lieux publics, notamment dans les cafés, les bars, les restaurants, les discothèques, depuis le 10 janvier 2005 en Italie, a été suivie d'une diminution de 11% en 6 mois des admissions pour infarctus du myocarde dans les hôpitaux du Piémont. En France, une telle réduction de 11% du nombre d'infarctus entraînait une diminution de 5 à 7 000 infarctus par an, nous les avons calculés, ce qui est considérable. J'ajoute que la nouvelle législation italienne contre le tabac a entraîné une diminution de 7,6% de la consommation des cigarettes et une diminution de 90% de la concentration des vapeurs de nicotine dans les bars et dans les boîtes de nuit. Il est intéressant de rapprocher les résultats de cette étude italienne d'une étude rapportée par Sargent en 2004 dans le British Medical Journal dans la ville d'Helena au Montana. Les admissions aux urgences Pour infarctus du myocarde dans cette ville d'Helena, on diminue de 40% pendant les 6 mois d'interdiction de fumer dans les lieux publics, pour reprendre leur valeur initiale quand cette interdiction a été supprimée sous la pression des lobbies du tabac. Une autre étude, l'étude de Pueblo, au Colorado, publiée par Carl Bartici dans Circulation en 2006, rapporte une diminution de 27% du nombre des hospitalisations pour infarctus myocardique après l'application du Smoky Free Air Act en 2003, alors qu'à Colorado Springs, une autre ville du même État, où il n'y a pas eu de mise en œuvre de la loi anti-tabac, le taux des infarctus n'a pas changé. Le dernier volet de mon exposé est consacré à l'amélioration de la prévention des maladies cardiovasculaires dans notre pays. L'amélioration de la prévention dépend de la volonté politique et de la responsabilisation des citoyens. Si l'État n'est pas responsable de tout, ne peut pourvoir à tout, ne peut pas tout, son rôle est capital. Enjeu fondamental de santé publique, la lutte contre le tabagisme, qui est la première cause de mortalité évitable, en est un bon exemple. L'augmentation du prix des cigarettes, réalisée dans le cadre du plan cancer de 2003, a permis une diminution nette des ventes de tabac dans notre pays. Moins 14% en 2003, quand le prix des cigarettes a augmenté de 12%. Moins 21% en 2004, quand le prix des cigarettes a augmenté de 22%. En dépit d'une contrebande qui est restée modeste, 2 à 3% des ventes. Le nombre des Français ayant cessé de fumer est passé de 820 000 en 2002 à 1 900 000 en 2003. Mais la partie est loin d'être gagnée. Vous le savez, le tabagisme des jeunes reste élevé, au-delà de 30%. L'âge de la première cigarette, c'est 12 ans. Celui des femmes dépasse 20% et le tabagisme féminin diminue plus lentement que celui des hommes. En dépit de la loi Evin de 1991 relative à la lutte contre le tabagisme interdisant de fumer dans tous les lieux publics, sauf dans les emplacements réservés aux fumeurs, les espaces qui étaient aménagés dans les restaurants, les bars, les discothèques n'offraient qu'une protection virtuelle aux non-fumeurs. Le gouvernement, vous le savez, a pris un décret le 15 novembre 2006, en application de cette loi Evin, un décret inspiré du modèle italien. Ce décret interdit, à partir du 1er février prochain, de fumer dans tous les lieux fermés et couverts dédiés au travail ou accueillant du public, mais aussi sur les quais des gares, dans les moyens de transport collectif, dans les cours des écoles, des collèges et des lycées, et dans tous les lieux accueillant des mineurs. Les fumoirs, il y aura des fumoirs qui seront installés dans les bars et les restaurants, mais pas dans les ministères et pas dans les administrations. Ces fumoirs devront répondre à des normes drastiques, être équipés de dispositifs d'extraction d'air et de fermeture automatique. Les bars tabac, les restaurants et les discothèques auront jusqu'à janvier 2008 pour se mettre en conformité. En cas d'infraction, vous avez pu le voir probablement dans la presse, les sanctions seront lourdes, 68 euros pour le fumeur, 135 pour l'employeur et jusqu'à 750 en cas de non-respect des règles d'installation des fumoirs. Bien sûr, les débitants de tabac ont poussé des hurlements et le gouvernement s'est engagé à signer avec eux un nouveau contrat d'avenir. Ils vont recevoir des subventions destinées à favoriser leur reconversion. Les fumeurs se verront également proposer une aide pour pouvoir arrêter de fumer. Achat des patchs, consultation de tabacologie, cette aide est certainement insuffisante puisque l'on prévoit 50 euros par an par individu fumeur. Le gouvernement prévoit de débloquer 100 millions d'euros chaque année à cet effet. Deuxième élément de la politique de prévention, la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Elle a listé 100 objectifs pour améliorer la santé des Français d'ici 2008. Notamment, réduire la mortalité coronaire, ainsi que la fréquence et la sévérité des séquelles fonctionnelles des accidents vasculaires cérébraux. L'Académie nationale de médecine, sous ma présidence, a recommandé des cibles d'intervention qui devraient s'avérer rapidement efficaces. Troisième élément de la politique de prévention, le PNNS, le Programme National Nutrition Santé. Il a été lancé en 2001. Il joue un rôle important dans le rééquilibrage nutritionnel au profit des fruits et des légumes en recommandant de consommer 5 fruits et légumes par jour avec réduction du sel, des graisses saturées, beurre, fromage, lait entier, charcuterie, viande grasse, avec réduction aussi des sucreries. Il faut enrayer la véritable épidémie de surpoids et d'obésité qui atteint notre pays après avoir submergé les États-Unis et qui débouche, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le diabète et sur les complications cardiovasculaires. La médiatisation de la prévention est indispensable, mais elle exige le concours des chaînes publiques de radio et de télévision pour contrebalancer les informations publicitaires délétères, notamment alimentaires, et vous voyez des publicités pour les McDo, pour informer la population des dangers du tabac qu'il faut parvenir à dénormaliser chez les enfants, chez les adolescents. L'industrie agroalimentaire doit participer à la promotion des fruits et des légumes qui sont vendus beaucoup trop cher dans notre pays, à la réduction de la teneur en sel du pain et des produits manufacturés, notamment des plats cuisinés en restauration collective, car bien souvent, les plats cuisinés et les restaurations collectives sont goulayants mais trop riches en sel. La communication ne doit pas atteindre uniquement les populations déjà bien informées, intellectuellement bien développées. Elle doit toucher également les populations à faible niveau socio-économique qui ont des risques plus élevés car la fracture sociale se répercute jusque dans la santé. À 35 ans, vous le savez, les cadres et les professions libérales ont une espérance de vie plus longue de 6,5 ans que les ouvriers. La mortalité coronarienne est plus faible dans les classes professionnelles les plus élevées que dans les classes les plus modestes. L'étude Entraide, portant sur 3076 diabétiques de type 2, c'est-à-dire des diabètes de surcharge, des diabètes d'obésité, publiée dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire du 14 novembre dernier, démontre qu'un statut socio-économique défavorable est associé à une prévalence plus forte du diabète, à une prise en charge de moindre qualité, à un taux de mortalité lié au diabète plus élevé. 60% des malades ont un niveau d'études inférieur au BEPC, contre 39% d'une population de référence du même âge. La fréquence plus élevée de l'obésité, d'une alimentation déséquilibrée, principaux facteurs de risque du diabète de type 2 dans cette population, explique en grande partie ce lien. Ces disparités sociales de santé vont de pair avec des disparités régionales de mortalité générale. Les valeurs maximales de mortalité sont observées dans le croissant nord de notre pays, la Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais, l'Alsace. Les valeurs les plus basses en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, région productrice de fruits et de légumes, beaucoup plus abordables par les bourses modestes. Le contexte environnemental, socio-économique et nutritionnel constitue un facteur essentiel des disparités régionales de santé. L'obésité chez les hommes jeunes, dont la prévalence a doublé en 10 ans, est nettement plus marquée dans les zones rurales que dans les villes. Ces inégalités doivent être prises en compte par tous les acteurs de notre système de santé. Quels sont ces acteurs ? J'en arrive à la fin de mon exposé. Les médecins ont un rôle essentiel dans la prévention. Le médecin traitant, institué coordonnateur des soins par la loi du 13 août 2004 de l'assurance maladie, a une position privilégiée. C'est lui qui connaît le mieux le sujet auquel il s'adresse, ainsi que son environnement personnel et familial. D'après une enquête Louis Harris que nous avons faite faire récemment, 66% des personnes interrogées le citent en premier lieu comme acteur de la prévention cardiovasculaire. Contrôle de la tension, dosage du cholestérol, des triglycérides qui sont des marqueurs de risque cardiovasculaire, chez la femme surtout, car généralement associés à un HDL cholestérol bas. Contrôle de la glycémie, doivent être systématiques avant 30 ans et renouvelés tous les 4 à 5 ans quand les résultats initiaux sont normaux. Les médecins du travail, les cardiologues, doivent intervenir activement dans l'instauration et le suivi de la prévention cardiovasculaire. Le personnel infirmier, les paramédicaux, les pharmaciens et même les dentistes ont un rôle adjuvant important. L'instauration d'une véritable culture de prévention vie entière dans la population, dans les familles, dans les écoles, dans les lycées est indispensable. Elle doit s'accompagner du dépistage des individus à haut risque dans les familles des sujets qui ont eu un accident cardiovasculaire prématuré. Une démarche spécifique doit être engagée chez les sujets en situation de précarité, en leur favorisant l'accès aux structures de dépistage et de prévention. Une récente enquête réalisée en ligne du 2 au 6 octobre 2006 sur 820 personnes de 18 ans et plus démontre que 82% des assurés sociaux français sont favorables à une consultation de prévention annuelle, systématique, dispensée par le médecin traitant. Vous le savez, une consultation de prévention gratuite doit être mise en place à partir du 1er juillet 2007 pour toutes les personnes de 70 ans et plus, pour repérer les troubles cognitifs et les troubles liés aux polypathologies du vieillissement. Il me paraît souhaitable de généraliser cette mesure à tous les âges de la vie. Comme le disait Maurice Roche, pour devenir centenaire, il faut commencer jeune. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs, la prévention cardiovasculaire a atteint l'âge de la maturité. Ses bénéfices devraient être plus importants que ceux apportés par les multiples innovations technologiques, souvent très coûteuses, apparues dans ma discipline ces dernières décennies. Nos dirigeants politiques perçoivent maintenant son intérêt, mais il faut aussi convaincre nos concitoyens de sa nécessité. Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'entendre André Vacheron, professeur émérite de cardiologie, lors de sa communication consacrée à la prévention des maladies cardiovasculaires, un enjeu majeur de santé publique. Communication qu'il a donnée le lundi 22 janvier 2007 devant l'Académie des sciences morales et politiques.